Bon, alors, donc ça a commencé en février. C'est tous les deuxièmes, enfin jusqu'à maintenant c'était tous les deuxièmes samedis du mois, en fin d'après-midi, tous les deuxièmes samedis du mois. Parallèlement, parfois, moi j'ai proposé par exemple à la BAM de diffuser des films, ça a été surtout des films sur le nucléaire, je pourrais expliquer après pourquoi. Et bon, en fait, l'ambition de ce séminaire, c'est comment dire, bon, il y a beaucoup de personnes, par exemple, enfin, bon, c'est aussi valable pour moi, qui sont dans l'action, par exemple dans Nuit debout, dans les manifs, etc. Et en fait, ou bien sont salariés et puis n'ont pas tellement le temps de réfléchir un peu à ce qui se passe. Et donc, l'ambition de ce séminaire, en fait, c'est de donner les concepts, je vais dire, je vais sortir les gros mots tout de suite, hein, tant qu'à faire. Bon, de donner les concepts pour pouvoir penser ce qui se passe aussi bien au niveau politique, au niveau même du rapport que chacun d'entre nous peut avoir dans la société actuelle, qui est, alors clairement, je dois dire aussi, annoncer les choses, c'est que un des points de critique de ce séminaire, c'est qu'il est clairement anticapitaliste. Ça, bon, il faut le dire clairement. Alors, ceci dit, la démarche, alors pour être plus précis, la démarche du séminaire, elle est vraiment très 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 ambitieuse. Ça ne veut pas dire qu'on réussit, hein. Avoir une démarche ambitieuse, ça ne veut pas dire qu'on réussit. Elle est ambitieuse dans quel sens? Dans le sens où c'est une démarche qui s'appuie sur comment dire, des concepts ou des analyses, par exemple l'analyse du marxisme, le marxisme, pardon, qui est une analyse de l'économie politique, en fait, qui est une économie politique, le marxisme. Mais c'est pas le marxisme qu'on connaît, qui a eu cours jusque dans les années 80. En tout cas, c'est une nouvelle manière d'aborder les écrits de Marx en tant qu'outil d'économie politique critique par rapport au capitalisme. Et moi j'en ai intégré, je ne suis pas spécialiste en économie politique, parce que pour se dire enfin, pour avoir spécialiste, j'aime pas trop ce mot non plus, mais pour dire qu'on est vraiment dans l'économie politique, en l'occurrence là, par exemple, il faudrait vraiment étudier Marx et notamment le Capital. Or, moi, mes lectures de Marx, elles datent des années 70. Et par exemple, je n'avais pas lu le Capital, j'avais lu deux, trois trucs, peut-être quatre. J'avais lu pour Marx, d'Althusser, etc. Donc, je ne peux pas dire que je sois. Il y a des gens qui sont plus compétents que moi dans la lecture de Marx. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, j'ai écouté tous les séminaires. Depuis 2012, j'ai écouté tous les séminaires de quelqu'un en France qui est représentant de ce nouveau courant marxiste, qui est né en Allemagne dans les années 1987 et qui s'appelle la critique de la valeur. Et le représentant de ce, enfin le représentant, c'est pas un représentant attitré, hein, mais celui, il est très, en fait, il est très connu même au niveau international. Il s'appelle Anselme Japp. Je le prononce à la française, JAPPE. Là, il y a un texte de lui d'ailleurs sur Sade. Et par exemple, lui, il a fait depuis 2012 jusqu'à 2014, 2 années. Pendant 2 années, il a fait des séminaires à l'école des hautes études en sciences sociales, là, boulevard Raspail. Je vous signale au passage que tout ça, tous ces séminaires, etc., sont des séminaires ouverts. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être inscrit en fac, ni d'être inscrit à l'EHESS. C'était mon cas, par exemple, quand en 2012 j'étais écouté des séminaires sur l'écologie politique, je n'étais pas inscrit et je suis venu en auditeur libre. C'est encore une des possibilités dans l'université française, c'est-à-dire d'aller écouter des conférences, des séminaires, à tout ce qu'on voudra, sans être inscrit et sans avoir payé aucun droit. Ça s'appelle auditeur libre, donc on peut faire ça, hein. Je vous dis ça au passage, si ça vous intéresse. Donc lui, Anselm Japp, c'est une personne qui est très connue au niveau international et qui, en France, donc on peut, si ça vous intéresse d'ailleurs, je peux vous laisser l'adresse mail où on peut écouter tous ces séminaires. Ils sont assez faciles à écouter et c'est très 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 intéressant et très enrichissant. Voilà. Et voilà. Alors,
C'est écrit un des meilleurs ouvrages
voilà.
consacrés à la vie et l'œuvre de Guy Debord.
Voilà. Bon, Guy Debord,
c'est un peu complexe, le bonhomme.
Oui, mais.
Ouais, excusez-moi,
mais le regard.
C'est là le site, là, où on le voit
Oui.
Je pense que je vais lâcher à la vitesse qu'il
Là,
voulait aller
sur ce livre-là, sur celui-là.
Non, peut-être pas celui-là, parce que ça, c'est sur la vie de Guy Debord, mais Guy Debord, il faut le comprendre.
Oui, non, non, mais c'est sûr.
Elle n'est pas, moi, je suis pas
Vous savez qui est Guy Debord?
Non.
C'est quelqu'un qu'on rattache habituellement à la critique situationniste des années 60, qui était une critique, comment on pourrait le dire, une critique anti-industrielle, une critique anticapitaliste, une critique anti-parti communiste, oui, sur la gauche du Parti communiste. Une critique aussi, la spécialité de Debord, ça a été de démonter ce qu'il a appelé la société du spectacle. C'est une des premières critiques de fond. Sur la télévision, les shows, le spectacle en général, le fait de tout transformer en spectacle, quoi. Même la guerre du Vietnam, par exemple, pendant la guerre du Vietnam aux États-Unis, c'était transformé en spectacle, en quelque sorte, dans les télévisions américaines, CNN.
Comme le terrorisme de notre époque.
Voilà. Donc,
quand vous dites en spectacle, c'est pas monter en spectacle, c'est ça, c'est
spectaculariser.
Montrer, voilà, spectaculariser. C'est-à-dire, on voit des images comme ça, quoi, et avec ce qu'on veut en voir, ce qu'on veut nous donner à voir. C'est une manipulation, c'est très médiatique.
Nous transformer en spectateurs de n'importe quoi et de tout.
Oui, c'est ce qui se passe actuellement. On a une censure des médias qui arrive, qui est déjà très bien avancée. Il y a une canalisation d'informations qui se fait, je dis pas de conneries.
Non, non.
Voilà. Non, parce qu'on est concerné là tout de suite maintenant par ce qui se passe. Hein.
Le point de départ de son œuvre, La Société du Spectacle, c'est une comparaison avec la phrase, l'analyse de Marx, dans laquelle la société capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Lui, il dit la société capitaliste d'après-guerre se présente comme une société d'accumulation d'images, essentiellement. Bon, c'est un postulat de départ ensuite, bien sûr.
Mais on est toujours dans la spéculation.
La spéculation du spectacle.
De tout ce qu'il ne faut pas. Parce que spéculation, ça veut dire à outrance, quoi. Je veux dire, ça va plus dans le bien commun. Voilà.
C'est intéressant et on va y venir. Alors pourquoi Félix montrait ce livre-là? En fait, c'est la thèse. C'est la thèse de départ. C'est la première thèse de Japp et qui a été transformée en bouquin. En fait, il a fait ses études de doctorat. Il a fait une thèse. Et en fait, sa thèse portait sur Guy Debord. Et effectivement, c'est un des meilleurs spécialistes de Guy Debord aujourd'hui, quoi. Mais après, il a continué, lui, dans la critique marxienne, parce que c'est quelqu'un qui est d'origine allemande, mais il est parfaitement trilingue au minimum. C'est-à-dire, il parle parfaitement français, allemand, italien, espagnol, portugais, et puis j'en oublie quoi. Et comment dire? Hein?
Langue.
Je sais. Ouais, bon, pas au même niveau
plus.
Toutes les langues, mais par exemple sa femme est italienne, ses parents sont à moitié français, à moitié allemand, enfin bref. Bon. Et dans un séminaire, par exemple, à un moment donné, en 2012, sur la deuxième à la troisième séance, il commence le séminaire en France. Hein. Il commence le séminaire et il parle en italien, il s'en aperçoit même pas. Et les gens en face, ils disent oh, monsieur, excusez-nous, vous avez parlé. Et tu dis oh, pardon, excusez-moi, il reprend tout en français. Quoi. Enfin, bon, donc, tout ça pour dire quoi? Je reviens parce que c'est important de comprendre le cadre du séminaire. C'est qu'en fait, par exemple, Anselm Japp dit que on pourrait, si on voulait résumer en une petite formule ce qu'est le capitalisme, moi je pourrais rajouter autre chose, le capitalisme, c'est une formule, hein, ça serait la valorisation de la valeur. C'est-à-dire, c'est un truc qui tourne sur soi-même. Et il ajoute, en général, il ajoute, en fait, le but du capitalisme, c'est transformer 100 euros en 120 euros, 120 euros en 130, 130 en 140, etc. Et sans fin. sans fin. Donc c'est la, ce que j'appelle la valeur. Et ça, c'est très important, hein, parce que c'est à la fois une formule qui peut paraître absconse, comme ça, bon, mais ça, si vous retenez cette formule, c'est quelque chose qui va vous servir dans les analyses après. C'est-à-dire, parce que c'est, pourquoi ? Parce que c'est un phénomène abstrait. C'est-à-dire, c'est le capital qui lui-même tend toujours à s'augmenter indépendamment quasiment de ce qui se passe et de la volonté des hommes. C'est-à-dire, bon, ça rejoint l'analyse de Marx qui dit en fait, le capital est un automate, fonctionne comme un automate. Et bon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la finance, quoi. C'est-à-dire le seul but de la finance, c'est d'augmenter sa capitalisation et si possible de faire circuler le capital à la vitesse proche de la lumière dans les fibres optiques. D'où le high frequency trading, c'est-à-dire le trading de haute fréquence maintenant, c'est-à-dire on essaye d'être plus rapide que le voisin, parce que dans la milliseconde, il y a les algorithmes qui permettent de faire X centaines ou milliers, je ne sais pas, d'opérations de spéculation. Quoi.
Oui, tous les marchés alimentaires, tout passe par l'algorithme. Les achats se font comme ça, tout. Et la pensée, ben, elle va pareil. Hein.
La prévision de nos comportements également.
Ah ben oui, mais Internet.
Donc ça, c'était un pan. Calculé. C'était un pan de l'analyse. Alors après, on peut revenir à Internet parce que c'est, je propose moi d'y revenir à la fin parce qu'il y a des choses intéressantes quand on a précisé un certain nombre de points. Donc ça, c'était un des outils critiques qui ont été utilisés dans ce séminaire, c'est-à-dire la critique du capitalisme via un marxisme, mais pas un marxisme ancien qui a montré son échec. Mais une nouvelle école qui s'appelle la critique de la valeur, donc, et en allemand la Wertkritik, et qui a été fondée entre autres par Robert Kurz, un allemand, dans les années 87. Par là. Donc ça, c'est un pan de la critique. L'autre pan de la critique, alors là, lui, il m'est plus propre, c'est la critique de ce que j'appelle, moi, le mode de connaissance scientifique. C'est-à-dire la critique, de la science en tant que telle. Et là, alors, c'est un challenge que d'essayer de rassembler ça en quelques mots. C'est, il y a de gros débats historiques sur comment se sont constituées les sciences. Mais encore une fois, je dis les sciences, mais je vais arrêter de dire les sciences, parce que ça ne me correspond pas. Je trouve que c'est pas bon. Il vaut mieux dire un mode de connaissance scientifique. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres modes de connaissance. Par exemple, les agriculteurs avaient un autre. C'était pas des connaissances d'ailleurs, c'était des savoirs. Ils étaient extrêmement riches, leurs savoirs sur les animaux, sur les plantes, sur le climat, sur les arbres, sur le ciel, etc., etc. Enfin bref, et on pourrait prendre d'autres exemples comme ça. Donc, ce mode de connaissance, en fait, en Occident. On peut dire qu'il commence sa cristallisation, vous comprenez ce mot ? C'est-à-dire qu'il se cristallise, un peu comme l'eau qui se cristallise en glace. Ça commence à prendre, si vous voulez, vers 1600, avec Galilée. Ça, c'est le truc classique qu'on voit partout. Mais ce n'est pas que Galilée, quoi. Il y a Copernic, il y a Galilée, il y a Tycho Brahe, il y a Giordano Bruno, bon, évidemment Galilée, puis j'en oublie. C'est-à-dire, disons, entre 1550 et 1650, les premiers rudiments, on va dire, du mode de connaissance scientifique se cristallisent, parce que Galilée, là, il dit, ce qu'il met en avant, c'est, voilà, on peut rendre compte des phénomènes, du mouvement des planètes, par exemple, on peut rendre compte du mouvement des planètes et de la réalité, enfin du réel en général, grâce à l'étude de la forme, grâce à l'étude du mouvement et grâce à la vitesse. Et il dit, avec ces trois choses-là, on peut rendre compte du réel. Donc, ça, c'est très important, parce que ça signifie, dès le départ, C'est là-dessus que se constitue le mode de connaissance. Ça signifie dès le départ qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, de l'ordre de la vie même, ce qui constitue la vie, c'est mis à côté. C'est-à-dire que ce qui se constitue à ce moment-là, c'est un mode de connaissance dans lequel la vie, le vivant, la sensibilité, les sentiments, etc., sont mis de côté dans une optique qu'on appelle réductionniste. Pourquoi ? Parce que ça ne tient pas compte justement de la vie en tant que telle. Donc ça, c'est entre 1550 et 1650, on dit que c'est le corps des sciences, ou plus exactement, le corpus des sciences, avec les axiomes, les théorèmes, etc., qui se met en place à ce moment-là. C'est la base du truc. Mais il n'y a pas que ça que pour faire une science ou un mode de connaissance scientifique. Il n'y a pas que le corps des théorèmes. Il faut aussi que ce soit validé, d'où ce qu'on appelait après au 19e siècle. Là, c'est entre 1600 et 1850, disons qu'il y a deux siècles et demi, là, il y a la méthode expérimentale, ça on l'apprend à l'école, qui est acceptée, hein, avec Lavoisier. Ça, c'est la première moitié du 19e siècle. Donc, il y a des axiomes, des théorèmes qui sont mis en place, avec Newton, etc. Et début du 19e siècle, il y a comme validation, comme instrument de validation des hypothèses, là et leur vérification, la méthode expérimentale. D'accord, ça, je pense que vous avez entendu parler. Et la troisième chose dont on parle en général pas, c'est la validation de tout ça par ce qu'on appelle les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire par les autres scientifiques. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait que ça se fait à travers des revues à comité de lecture comme Science, comme Nature, mais à l'époque, ça se met en place à l'époque, dans les années 1850, par des congrès internationaux de, entre guillemets, scientifiques. Donc, vous comprenez que les trois choses sont importantes dans la constitution d'une science, ou plus exactement d'un mode de connaissance scientifique, quel qu'il soit. C'est le corps de la doctrine, ou le corpus théorique, si vous voulez, corpus théorique, hein. S'il y a quelque chose qui vous pose problème, vous m'arrêtez, hein. No problème. Deuxièmement, la méthode expérimentale, et troisièmement, la validation par les pairs à travers des congrès internationaux. Tout ça, ça commence en 1850. Donc, on peut dire que le mode de connaissance scientifique en tant que tel, avec ces trois choses-là, il cristallise, parce qu'on ne peut jamais dire c'est une date, quoi, hein, comme 732 à Poitiers, qui est une date complètement bidon, parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt des Arabes en 732 à Poitiers, c'est autre chose.
Ils ont respecté, c'est ça.
Et en plus, bon, c'était juste une razzia, et puis ouais, comme ça se faisait à l'époque, quoi. Enfin bref, ça c'est pour dire que l'histoire officielle, c'est l'histoire qui aussi permet à une nation de se constituer en opposition par rapport, etc., etc. Bon bref, et donc je préfère dire que le mode de connaissance scientifique, il se cristallise, grosso modo, on peut dire qu'il se cristallise entre 1800 et 1900, mais avec les congrès internationaux qui démarrent en 1850, c'est la dernière pierre qui est apportée à la validation de ce mode de connaissance par la reconnaissance des pairs dans les congrès internationaux. Et donc, finalement, on peut dire que vers 1850, ça y est, tout est posé, même après, si ça va s'améliorer, etc. Mais même Science, ça date d'à peu près cette époque-là. Je n'ai plus la date en tête, mais vers 1870, quelque chose à 10-15 ans près, quoi, hein, la grande revue scientifique d'aujourd'hui. Alors ça, c'est la deuxième chose. Alors pourquoi moi je développe une approche très critique de ça. Bah, pour la raison suivante justement, c'est que en fait, mais je vais aller très vite. Hein, alors je vous m'excuser, mais je vais aller très vite. Ça va être à la hache, mais vraiment à la hache. Hein, donc excusez-moi, ça va être très vite. Donc c'est pour attirer l'attention sur le fait que le mode de connaissance scientifique, en fait, premièrement, il s'est installé en Occident à l'exclusion, il a poussé dehors ou mis à la poubelle toutes les autres formes de savoir. Savoir paysan, savoir des métiers, etc. etc. Mais plus que ça, c'est qu'en fait, ce mode de connaissance scientifique, là, c'est quelque chose, là je vais employer une formule, c'est quelque chose qui réduit tout le réel, y compris le vivant, tout le réel, à des mesures ou des relations. Gilberto. C'est un exercice difficile que je suis en train de faire. Sur le résumé, nous avons. C'est un peu dur. Et en plus, il ne faut pas que je perde de vue tout le truc. J'ai plein de trucs à dire après. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le mode de connaissance scientifique, c'est. Dès le départ, ça fonctionne par réduction du réel, mais à l'arrivée, ça transforme tout le réel et le vivant en abstraction, c'est-à-dire en relation mathématique, algébrique, comme vous le voudrez, mais en relation qui permet de mesurer, on appelle ça des relations commensurables. Et en fait, il y a ce qu'on pourrait dire un isomorphisme, c'est-à-dire une identité de structure entre le mode de connaissance scientifique et le capitalisme. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Je répète, ça, vous n'entendrez nulle part que ici. Nulle part.
On va prendre son nom.
Non, mais bon, c'est pour ça que le premier bouquin que j'ai fait, ça s'appelait « La science creusée de l'inhumanité ». Et bon, et là, en fait, le truc... Enfin, bref. Donc, ça, c'est hyper important. Pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer tout de suite, mais après. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on est d'accord pour dire que le capitalisme, c'est un truc, en fait, qui veut faire du fric, si vous voulez, je vais le dire en termes familiers, qui veut faire du fric avec tout, donc qui transforme tout en fric.
Le fric avec le fric.
Non. Voilà, et qu'après, c'est le fric qui appelle le fric. C'est-à-dire, c'est un truc qui tourne en rond, mais de plus en plus sur soi-même, et qui, en fait, la bonne formule, c'est la valorisation de la valeur. Parce que cette formule, elle est déjà abstraite. Et elle rend bien compte de l'abstraction du phénomène. Je trouve ça, bon, si on en trouve une meilleure, je suis preneur, hein. Mais bon, moi j'en ai, c'est Anselme qui dit ça, donc je trouve que c'était une très bonne formule. Bon, j'ai écouté tous ces séminaires, bon, j'étais présent les deux dernières années de ces séminaires, donc j'ai trouvé que c'était une bonne formule, quoi. Et donc, si vous voyez le mode de connaissance scientifique, c'est exactement l'objet de la science, c'est... De décrire le réel grâce à des relations ou à des mesures commensurables. Et donc, ça, ce sont aussi des abstractions. E égale MC2, c'est une abstraction. Le vivant, là-dedans, il n'y est pas, dans E. Sauf quand on écrit E égale MC2, mon amour. Mais ça, c'est les gens qui font du théâtre, quoi, qui réintroduisent, et ça, c'est toujours les artistes, quoi. Ils réintroduisent la vie dans MC2. Après, je sais ce que tu pourrais dire.
Ah bon ?
Vas-y, Jean-Pierre. Tu veux parler, par exemple,
dans ta description précédente, tu oublies, et ça, c'est vachement important pour moi, le fait que ça marche. Ça veut dire qu'on fait de la technologie, on fait des machines à vapeur.
Voilà, c'est ça.
Dans les mêmes années où on développe la science, etc., et effectivement cette espèce de monde dans lequel on vit maintenant, il y a des trucs qui marchent. Depuis qu'on est né, les transistors sont nés, les circuits... les circuits, enfin, tout ce que l'on connaît est né. En gros, il y a quelques grandes découvertes au XVIIe siècle, il y a les lunettes astronomiques, des trucs comme ça, mais dans l'ensemble, ça marche. On arrive à prévoir qu'il y aura telle planète à tel endroit, à tel moment, en observant d'autres planètes. Bon, ça fout quand même un choc par rapport au monde paysan et aux connaissances paysannes, pour qui la Terre est plate.
Oui.
C'est vrai qu'elle est plate, sauf si tu montes en haut d'une montagne, et ça, un être humain est capable de le faire, et il voit que l'horizon est courbé. Je te repasse la parole.
Oui, c'est vrai. Mais ce qu'est en train d'écrire Jean-Pierre, c'est que, c'est effectivement, on voit là qu'il y a une puissance, mais dans l'ordre de la connaissance. C'est-à-dire, effectivement, on est capable de prévoir la marche des astres, par exemple. Ceci dit, Ptolémée, 20 siècles, presque 15 siècles avant, était capable aussi de... Enfin, mais même les Égyptiens et les Grecs étaient capables aussi de prévoir la marche des astres. Mais c'est vrai, ce que dit Jean-Pierre, c'est-à-dire que la force du mode de connaissance, c'est qu'il nous permet de prévoir, justement, les choses. Mais c'est pas seulement une force dans l'ordre de la connaissance et dans l'ordre de l'intellect. Ça devient une force quand, justement, il y a une symbiose qui se produit entre 1850 et 1900 en Occident, c'est-à-dire en Angleterre, en Belgique, en France, en Hollande et en Allemagne, après dans tous les autres pays, c'est-à-dire que, en fait, le capitalisme, pour survivre, chaque capitaliste, pour survivre, même celui qui au départ fabrique des tissus, il a besoin, il est en concurrence permanente avec l'autre capitaliste d'à côté ou de l'autre région, et il a besoin tout le temps d'innover et d'introduire de nouvelles techniques pour battre ceux qui sont à côté et finalement ramasser le jackpot. Et bon, et donc, bon, je résume. Et dans ce système capitaliste-là, les sciences ou le mode de connaissance scientifique et sa déclinaison, c'est-à-dire les techniques, ont été capitales. C'est-à-dire, par exemple, et c'est pas que la technique. Pas, je peux prendre un exemple. On pourrait dire, à la limite, oui, on peut dire que la machine à vapeur, grosso modo, ça relève de la technique. Ouais, on peut dire que ça relève de la technique. Il y avait, au début, en tout cas, des machines à vapeur. Il n'y avait pas besoin de connaissances scientifiques. Alors, j'appelle aussi connaissance, c'est une autre manière d'appeler la connaissance scientifique, c'est une façon de l'appeler, c'est la connaissance intime de la matière. Par exemple, le fait qu'il y ait des atomes, et dans les atomes, il y a les protons et il y a les neutrons, autour, il y a des électrons, etc., plus les particules, et en veux-tu, en voilà.
Non, mais il y a des lois simples. Tu as les lois de compression des gaz, des trucs comme ça.
Oui, mais on ne les utilise pas au départ, ces lois. Ce que je veux dire, quand la machine de Watt. Ou quand les Grecs, d'ailleurs, font ce petit truc-là, oui, qu'on voit partout, là, qui tourne là. Oui. Bon, ils ne connaissent pas ces lois.
Héros d'Alexandre.
Oui, c'était ouais, expérimental, héros. Et là, c'est un peu plus cadré.
Non, même quand Watt invente la machine de la vapeur, est-ce qu'il connaît ces lois de la compression et puis la thermodynamique? Non, elles sont inventées après.
Elles sont trouvées après. Mais il y a... La corrélation est très rapide, en fait, ça se fait très rapide. On cherche à savoir comment se dilate un gaz, par exemple. Ouais. Bon. Et là, il y a Lavoisier, qui ont suivi Lavoisier. Très vite, en laboratoire, on arrive à trouver pourquoi, comment.
Ce qui est là sur le tapis, si tu veux, c'est est-ce que Watt, par exemple, en fait, la question de fond, c'est est-ce que pour faire machine à vapeur, on a besoin du mode de connaissance scientifique en tant que tel? Non, voilà, c'est ça. Après, effectivement... Grâce à la thermodynamique, etc., tout ça se perfectionne. Même le moteur à explosion, d'ailleurs, est dépendant des connaissances scientifiques. Hein. Enfin, ce que je veux dire, Jean-Pierre, c'est que pour moi, et ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus le faire, il y a une différence radicale pour moi entre le mode de connaissance scientifique, qui est, on peut dire, toi tu dis le dégagement de lois. Bon, c'est effectivement ce qui a permis à Galilée d'opposer les lois de la nature et ce qu'il mettait en place à travers ce qu'il a appelé des lois. De la nature, je crois, hein, c'est ça, les lois de la nature, et en fait, par rapport aux lois de l'Église, c'est un combat de titans qui se produit au niveau intellectuel.
Avec des intuitions extraordinaires, oui. Parce que quand Galilée il voit les satellites tourner autour de Jupiter, en quelques nuits, il se dit « Ah, et si le système solaire fonctionnait comme ça, autour du Soleil ?» Bon, ça c'est assez fabuleux, et ça c'est la lunette astronomique quand même. Le type, il a quelque chose dans le crâne et il l'utilise bien. Bon, ça, c'est formidable. Quand il montre à des jésuites des taches solaires en projetant avec sa lunette l'image du soleil, il y a des taches là. Bon, les jésuites n'y croient pas parce que le soleil doit être vierge. C'est impossible qu'il y ait des taches sur le soleil.
En fait, c'est deux cosmogonies qui s'affrontent à ce moment-là. Alors, et c'est loi contre loi, quoi, en fait.
Alors que les paysans savaient que quand le soleil est près de l'horizon, quand il est tout rouge, quand il y a des grosses taches dessus, on les voit. Par exemple. Mais là, d'un seul coup, on franchit, il y a un saut qualitatif qui est lié au fait qu'on utilise un matériel, il faut fabriquer des lentilles, il faut avoir un tube, il faut le pointer comme ça, ceci. Bon. Et ça marche quand même. Bon. Et on accroît considérablement les connaissances, ce qui permettra, bien sûr, à tout ce qui dépend en aval, de faire du fric, évidemment.
Alors,
je schématise aussi.
Yes. Alors, donc, c'est là qu'il se produit quelque chose entre 1850 et 1900 en Occident. C'est qu'effectivement, parce que le capitalisme est tout le temps, et encore aujourd'hui, tout le temps obligé d'innover. Tout le temps. Par rapport à la concurrence et aussi pour faire tourner la machine de la valorisation de la valeur. Il est tout le temps obligé d'innover. Et là, le mode de connaissance scientifique et les techniques ont été fondamentales. Alors, pourquoi je tiens absolument à ce qu'on fasse bien la différence entre mode de connaissance scientifique et technique, ce qu'en général les philosophes ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas de compétences dans la matière, ou même les historiens des sciences d'ailleurs, c'est que aujourd'hui, par exemple, les deux choses sont mêlées. C'est-à-dire, par exemple, dans un téléphone portable, il y a à la fois de la technique et il y a à la fois de la science. C'est-à-dire, sans la relativité, ça ne pourrait pas fonctionner parce que la communication d'un téléphone portable via les antennes se fait via le système de satellites, les GPS. Et ça met en jeu des conceptions scientifiques qui ont été découvertes au 19e siècle. Et je préfère encore mieux, par exemple, parler du nucléaire en disant que le nucléaire en tant que tel, ça c'est une formule à mon avis importante, c'est le fils aîné de la science du XXe siècle en tant qu'il a utilisé lui aussi la relativité et puis la relation E égale MC2 et la physique des particules. Sans ça, le nucléaire n'aurait pas pu exister. Et c'est pour ça que je dis que le nucléaire est le fils aîné de la science. Et pourquoi j'insiste sur le fait de bien avoir les idées claires entre qu'est-ce que c'est un mode de connaissance scientifique? C'est parce que après, je voudrais revenir à qu'est-ce qui structure notre imaginaire aujourd'hui en tant que personne. Parce que ce qui structure notre imaginaire en tant que personne, c'est aussi ce qui permet au capitalisme de continuer à vivre. Parce que le capitalisme, ce n'est pas seulement un mode de production, et ce n'est pas un truc dans la stratosphère, c'est aussi quelque chose qui nous traverse à nous. C'est-à-dire les personnes, nous et moi y compris, à travers le fait que j'ai été façonné par le capitalisme, je suis aussi, dans une certaine mesure, un support de ce capitalisme-là. Alors, là, par exemple, ce qu'on pourrait dire, au 19e siècle, on invente le câble téléphonique sous-marin. Dans le câble téléphonique sous-marin, on pourrait dire, à la limite, ça peut fonctionner avec la technique. Pourquoi ? Parce qu'au départ, la transmission, par exemple, si elle se fait par morse, les trucs, les impulsions électriques qu'on fait passer par un câble, ça, bon, ça, il n'y a pas besoin de science pour faire ça. D'ailleurs, on le découvre sans que les lois... comment elle s'appelle déjà ?
La propagation.
Il y a Maxwell et puis les autres lois de l'électricité qui sont découvertes au... Il y a la loi d'Ohm, il y a l'électromagnétisme, etc., qui constitue un savoir scientifique sur l'électricité, sur la différence de potentiel, sur les champs magnétiques qui sont engendrés par l'électricité, etc. Tout ça, il n'y a même pas besoin de le savoir au départ. Et au départ, quand le morse est inventé, on ne le sait pas, ça. C'est un peu comme la machine à vapeur, en fait. Il y a un retard de l'élaboration scientifique. Mais bon, je prends des domaines spécifiques. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le câble sous-marin, les premiers câbles sous-marins transcontinentaux qu'on fait passer, il n'y avait pas besoin de science pour faire passer des impulsions électriques, juste quelques trucs, quelques savoirs, parce qu'on savait que les câbles étaient vachement loin, donc il fallait prévoir des répétiteurs et des trucs comme ça. Mais... Donc ça, c'est de l'ordre de la technique. Ce qui est de l'ordre de la science, c'est, dans le même câble, c'est d'arriver à faire passer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de messages dans un seul câble. Parce que là, ça, il faut avoir une connaissance des ondes qu'on va faire passer. C'est plus seulement du courant, c'est plus seulement une impulsion de courant, c'est-à-dire un 0 et un 1 dans le courant, mais c'est des ondes électromagnétiques qui sont porteuses, comme les ondes radio, qui portent elle-même des certaines fréquences, et ça, c'est pas avec la technique qu'on peut le faire. C'est en ayant un savoir scientifique, c'est-à-dire une connaissance intime de la matière. Est-ce que je me fais bien comprendre? Peut-être que les exemples, on pourra en prendre d'autres, mais pour moi, il y a une différence qui est très importante entre science et technique. Maintenant, ce qui a complètement obscurci cette différence entre science et technique, c'est qu'aujourd'hui, on en est rendu au fait que tout ça s'est mêlé. Et on appelle ça technoscience. Tout ce qui nous environne.
C'est pas la technologie aussi, ça ?
Ah non, c'est autre chose. La technologie, c'est. Alors, ça, c'est important. Il y a une différence entre technologie et technique, je vais le dire. La technologie, on appelle technologie, par exemple, la technologie pneumatique, la technologie électrique, la technologie numérique, la technologie hydraulique, et j'en oublie. Ce sont, en fait, des installations qu'on fait fonctionner grâce à un certain flux. Dans la technologie électrique, c'est l'électricité. Dans la technologie pneumatique, c'est l'air, grâce à la compression de l'air. Dans la technologie hydraulique, c'est l'huile. J'en ai cité une autre.
Mais il n'y a pas une acception au sens large de la technologie. Moi, je disais que, je ne sais plus si c'était Stigler ou un autre qui opposait la technique à la technologie en tant que la technique est saisissable, même à vue d'œil, on comprend. La technologie, ça repose sur quelque chose de profondément caché, enfin, qui est de l'ordre d'un agencement, justement, peut-être de technique et de science, mais dont en fait on n'a que l'usage, qui d'ailleurs est imposé, il n'y a pas un bon ou un mauvais usage de la technologie, et sans comprendre le fonctionnement en fait. Mais bon, voilà, c'est juste, moi, c'est ma perception, la compréhension que j'ai de la technologie.
Là, il faudrait voir, il faudrait réfléchir, il faudrait avoir un truc. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris, si tu veux, dans mes études de technicien et d'ingénieur, c'est bien ça. Et je l'ai même manipulé. C'est-à-dire, on avait effectivement des technologies. Par exemple, les relais électromagnétiques, c'est ce qui existait avant les transistors, par exemple. Et les transistors, on a appelé ça la technologie électronique. Parce que c'est des électrons qui étaient utilisés dans la technologie des transistors. Dans les puces de silicium, en fait. Et en fait, ce que, en tout cas, nous, du côté des techniciens, des ingénieurs, si tu veux, pour nous, ça, on a cette définition-là. C'est-à-dire, la technologie, c'est, il y a 5 ou 6 technologies qui existent, et pas plus, alors que la technique, c'est tout ce qui... Enfin, même, il y a aussi autre chose, c'est que, ce que je voulais dire, c'est que la technique... Ça peut être, c'est quelque chose qui a existé depuis que l'être humain existe. C'est-à-dire le fait de tailler des silex ou de faire des haches ou de faire des arcs, et ça continuera d'exister. Tandis que le mode de connaissance scientifique en tant que tel, c'est-à-dire une connaissance intime de la matière avec la capacité de transformer cette connaissance intime de la matière en formule abstraite, ça n'a pas toujours existé. Et ce à quoi je voulais en venir, c'est qu'en fait, avec le capitalisme naissant, et ça c'est vachement important, c'est que le capitalisme, par exemple, le capitalisme industriel, il est installé en Angleterre en 1815, est complètement installé. Il y a des centaines et des centaines de fabriques qui fonctionnent à la vapeur en Angleterre, je dis bien en Angleterre, en France, quelques dizaines par-ci par-là, et ça s'étend après en Europe, le capitalisme en tant que tel, ce capitalisme industriel, que je ne définis pas, hein, mais je pourrais le définir, parce que si je commence à définir le capitalisme industriel, là on en a pour un... Enfin, ça va être encore plus long. Parce que ce à quoi je voudrais arriver, c'est qu'en fait, entre 1850 et 1900, entre le mode de connaissance scientifique qui s'est cristallisé ou qui a cristallisé vers 1850, avec les 3 choses que je disais tout à l'heure, corpus, méthode expérimentale et congrès internationaux, et le capitalisme qui s'installe dans les pays... Hein, capitalisme industriel à production de masse, avec prolétarisation massive des ouvriers, etc. Ça s'installe aussi en Europe, et c'est vraiment installé entre 1850 et 1900. Et j'ajoute, moi ça c'est moi qui l'ajoute, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec ça, c'est qu'on peut dire, que vers 1900, le capitalisme en tant que tel, ça n'est plus seulement un mode de production économique. C'est devenu plus qu'un mode de production, c'est-à-dire ça a diffusé dans tous les pores de la société. Et ça, c'est devenu un fait majoritaire. Et comme Durkheim, le sociologue, on pourrait dire que c'est devenu un fait social total. C'est-à-dire, même s'il y a encore moitié de paysans en France, par exemple, la moitié des paysans en France en 1900, même si, en fait, ça y est. Un, il est installé, il structure l'économie, il a pris les rênes de l'économie, en fait c'est ça qui gouverne l'économie, et ça gouverne la vie. Alors, je pourrais revenir après à l'industrie de la voiture qui a été extrêmement importante aussi pour structurer la vie, pour changer toute la vie, quoi. Et alors, par exemple ça, et il se produit à ce moment-là ce que j'appelle une triple alliance entre 1850 et 1900, entre eux. Le mode de connaissance scientifique, le capitalisme que j'appelle la thermo-industrielle. Pourquoi on l'appelle thermo-industrielle ? C'est Alain Gras qui a introduit ce terme. Ça veut dire que vers 1850 à peu près, jusque vers 1850, en Europe, pas en Angleterre, mais généralement en Europe, c'était les forces utilisées, le mot m'échappe, c'était la force hydraulique, les moulins, c'était la force animale, les bœufs, les animaux, etc., pour faire tourner des trucs. Là.
Tu parles des sources d'énergie, donc.
Ouais, merci. Au passage, je vous ferai remarquer que le terme ressource et le terme énergie sont des termes de type scientifique qui visent à occulter que derrière, il y a de la vie. C'est-à-dire dire, par exemple, que le pétrole, c'est une ressource. Ou dire que l'eau, c'est une ressource, même, comment on dit maintenant, renouvelable. C'est des termes objectivants au niveau scientifique, c'est-à-dire ça cache la vie. Ça fait de quelque chose de vivant. Par exemple, le pétrole, c'est pas du pétrole. C'est pas une ressource même fossile, comme on dit maintenant. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je suis pas d'accord avec ça. C'est quelque chose qui est venu de sédiments, de la mer, qui a pris 100 millions ou 200 millions, je me souviens plus, à se constituer. C'est la vie même. Et c'est nous, êtres humains, qui sommes maintenant entrés dans ce cycle qui réduit la vie à des choses abstraites, qui appelons ça des ressources. Et comme on est très bien et comme on est à la mode, etc., on appelle ça ressources fossiles. Hein? Mais c'est un terme, encore une fois, objectivant, c'est-à-dire qui écarte la vie. Et pourtant, c'est devenu ce que la science appelle des ressources fossiles grâce aux microbactéries, par exemple anaérobiques, qui ont transformé ça. Il y a bien quelque chose de vivant à la base de la transformation de tous ces sédiments en pétrole, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est extrêmement important. Il y a une triple alliance qui se met en place dans les pays occidentaux, c'est-à-dire Europe et les États-Unis, entre 1850 et 1900. Le troisième terme de cette triple alliance, c'est les États-nations modernes. Il ne faut pas oublier non plus que pendant cette période, c'est le moment où la colonisation de tous les pays a été la plus large. C'est-à-dire, ça c'est... je vais revenir là-dessus. Non. Les trois choses, c'est cristallisation du mode de connaissance scientifique, le capitalisme qui devient un fait social total en 1900, et les États-nations modernes qui se constituent. Et les États-nations modernes, ils se constituent, par exemple, à travers l'école de Jules Ferry, la construction même des appareils d'État modernes, le fait aussi qu'ils répriment dans le sang toutes les insurrections ouvrières. Hein. En France, il y en a eu un paquet quand même, entre 1830, 1848, 1871, et j'en oublie. Il se construit là-dessus aussi, hein, l'appareil d'État moderne. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, la bourgeoisie, elle ne voulait pas du pouvoir. Mais ça, il faudrait rentrer dans les détails. La bourgeoisie, elle n'avait pas une tradition... elle ne possédait pas le pouvoir. Donc il a fallu qu'elle se constitue en tant que classe avec une idéologie et qu'elle s'auto-persuade de prendre le pouvoir de façon à ce que... alors, la chose la plus importante pour elle, ça a été, par exemple, de virer toutes les barrières d'octroi, toutes les douanes qu'il y avait dans les départements, de façon à ce que le marché soit unifié. Un peu ce que la Commission européenne fait en Europe. C'est-à-dire, bon... C'est ça, voilà, tout ça. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui peut représenter un obstacle à la circulation du capital et la circulation des marchandises doit être enlevé. Ça, c'est ce qu'on appelle constitution d'un marché. C'est ça, la constitution d'un marché. Après, pour faire joli, aussi, il faut que les êtres humains puissent circuler aussi. Mais quand ça ne va pas très bien, on commence à élever des murs partout. Hein, ça, c'est... Ou alors, on laisse crever les gens dans la mer.
La circulation des biens et des personnes.
Oui, des biens et des personnes. Oui, ça. Voilà,
Il y a des endroits où c'est que les biens. Entre les États-Unis et le Mexique, il n'y a que les biens. Les personnes ne circulent pas.
Mais même nous, on n'est pas forcément aussi. Donc, ça, il faut dire, hein, si on veut aller à là ou là. Il faut justifier, prouver.
Non, mais enfin, par sinon, exemple, voilà, en Europe, il y a eu ça. Ça a quand même été une chose qui permet, si tu veux, de convaincre les gens que c'est bien. de pouvoir circuler.
Si tu es finlandais, c'est vrai que tu peux aller travailler
au Portugal. Ça donne une illusion de liberté.
C'est vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a plus besoin ni de passeport, ni de carte d'identité pour passer les frontières en Europe, en tout cas en Europe de Schengen. C'est vrai, il faut le dire.
Ça devient difficile à certains endroits.
Oui, alors maintenant, effectivement, c'est en train de changer avec les murs qui s'érigent un peu partout, etc. Bon, enfin, bon.
Et puis c'est la sécurité aussi.
Ouais, mais il ne faut pas, il faut aussi... bon, mais c'est comme la...
Si je vais aller en Hongrie actuellement, je n'ai pas intérêt à être trop bronzé. Hein.
Non, ça c'est clair, c'est clair. Oui. Mais c'est comme, c'est un peu comme les droits de l'homme et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quoi. Oui, l'article 2.
J'ai un problème de traçabilité.
C'est comme les chèvres et les moutons maintenant. Oui, alors, ça c'est vrai. Ça. Mais c'est, en même temps, il a raison, hein. Félix, en disant qu'il y a une question de traçabilité, c'est très judicieux parce que les éleveurs de moutons et de chèvres maintenant passent plus de temps devant leur écran. Que dans le champ. Et si vous avez suivi
les agriculteurs.
Oui, les agriculteurs, etc.
Tout le monde, les associations. Ouais, il n'y a pas que, hein.
Ouais, c'est tout. Ouais, tout on est suivi à la trace, c'est vrai. Donc, j'en reviens à cette période cruciale dans l'histoire, qui est 1850-1900, cette formation de ce qu'on peut appeler une triple alliance. C'est moi qui l'appelle une triple alliance. Il n'y a, jamais eu de négociation entre les scientifiques, les capitalistes et l'État-nation. Ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait, bon, j'espère avoir montré qu'il y avait un isomorphisme ou une identité de structure entre le mode de connaissance scientifique et le capitalisme qui fait que, chut, ça s'est final, ils se sont finalement retrouvés, mais retrouvés parce que le capitalisme a besoin d'innovation permanente pour se survivre à lui-même. Et par là, cette optique-là, il fallait aussi que les États-nations modernes permettent le libre-échange au niveau international, permettent la fabrication de marchés. C'est les États qui fabriquent les marchés au départ, contrairement à ce que disent tous les néolibéraux. C'est les États qui prennent les décisions de fabriquer les marchés. Ce que tu disais tout à l'heure sur le TAFTA, etc. etc. Donc, entre 1850 et 1900... Oui, maintenant, effectivement, maintenant c'est l'OMC, voilà, ça a encore évolué. Mais à cette époque-là, c'est les États encore qui jouent ce rôle-là, et c'est vachement important, parce que ça constitue les marchés.
Dans le passé très proche, Airbus, c'est venu de l'industrie française, Arianespace également, ça a été fait par l'État français, c'est les Français qui au départ ont financé tout, et puis ça a été mis à disposition des capitalistes européens, en gros. ADS, c'est des firmes privées, chose qui ont été complètement poussées en avant par les États.
Mais d'ailleurs, c'est
assez... Et ce qu'on fait après.
Même on pourrait même dire des choses, c'est même un scandale politique, financier, etc. Moi, j'ai travaillé à l'aéroport de Paris. L'aéroport de Paris n'a jamais eu un sou de l'État depuis son existence en 1945. Donc, qui a payé les infrastructures Orly-Roissy, etc. C'est les passagers et c'est les salariés. L'argent pour construire les infrastructures des aéroports, d'où il vient, n'est pas venu de l'État. Donc forcément, il est venu des usagers et des salariés. Et n'empêche qu'en 2006, l'État a dit que on pouvait valoriser ça. Donc il a divisé l'aéroport de Paris en X actions et l'a vendu, je ne sais pas à combien on en est maintenant, mais c'est comme d'hab, quoi. C'est-à-dire on vend par appartement, quoi. Et quand on a besoin de fric, on vend jusqu'à temps qu'à garder juste une minorité.
Tout l'aéroport va être vendu, mais comme ça, ouais. Se fait dans un tas d'endroits.
Toulouse. Oui. Je ne sais plus le tel
autre. Ah, oui, Toulouse, c'est carrément.
Blagnac, c'est fini, c'est les Chinois qui ont acheté là. Ouais. C'est Chinois.
Ouais. Ouais. Chinois qui ont
acheté. Il y en a un autre qui était vendu.
Il y a le port d'Athènes, le Pirée. Ouais.
Voilà. Là, eux, ils sont en train de tout vendre sous les dictats du triumvirat, de la Troïka.
Les autoroutes, quand j'étais petit, c'était un projet, et on commençait à les construire avec l'argent de contribuables. Au bout d'un certain temps, ça devait être gratuit. Ça nous a été vendu comme ça.
Alors, et maintenant, c'est Vinci.
C'est une boîte qui est...
Tout ce qui devrait appartenir à tous, citoyens, appartient maintenant à des empires.
Ça continue, parce que vous avez connu la SNCF.
C'est la mort de tout.
Ou des fonds souverains, ce qu'ils appellent maintenant des fonds souverains. Est-ce que, avant que je continue, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, c'est-à-dire constitution du mode de connaissance scientifique, mais j'ai été très vite, constitution du capitalisme en Occident entre 1800 et 1900, mais et constitution des États-nations modernes, mais plus spécialement, on peut dire que tout se fait, grosso modo, hein, voilà. Entre 1850 et 1900, tout se fait, majoritairement.
Tu aurais pu ajouter le colonialisme.
J'ai fait un mot.
Ça, oui, ça complète l'envie de posséder, d'avoir et de marchandiser les choses. Oui,
pour que l'Angleterre développe le pillage. Pour que l'Angleterre développe son industrie textile, il a fallu qu'elle ruine l'industrie textile de l'Inde, qui était la plus florissante et la première à l'échelle du monde au XVIIIe siècle. Il a fallu tout détruire et tout reconstruire en Angleterre, cette fois avec des machines.
Ils ont pompé.
C'est fait en deux étapes.
Ouais. Ils ont pompé tous les tissus indiens qui faisaient la renommée de l'Inde. Ils ont copiés, mais sur des machines, c'est-à-dire beaucoup plus vite, etc. Mais en fait, il y a en termes d'économie politique, on peut dire que le capitalisme, il installe une division du travail. Ça, c'est vachement important philosophiquement. C'est Hannah Arendt et puis Günther Anders. C'est-à-dire une division du travail, et puis même avant Marx. Une division du travail, ça permet quoi? Philosophiquement, c'est capital, si on peut dire. Ça permet, en fait, un, de déposséder de tout leur savoir tous les gens qui avaient un métier dans les mains, les artisans, les ouvriers, etc. Par exemple, c'est très très visible dans l'automobile. Dans l'automobile, au fin du 19e siècle, les toutes dernières années du 19e siècle, les premières années du 20e siècle, les automobiles, par exemple chez Ford, il y avait des selliers, il y avait des bourreliers, il y avait des carrossiers, il y avait des vitriers, etc., etc. Et chacun, il faisait les sièges, les glaces, etc., dans son coin. Et petit à petit, à travers la mécanisation du processus de fabrication et à travers surtout l'introduction des chaînes qui étaient calquées sur les chaînes des abattoirs de Chicago en 1865, qui existaient déjà en 1865, c'est-à-dire que bah, ça rejoint aussi philosophiquement quelque chose qu'on fait aux animaux, un jour ou l'autre, on le fera aux êtres humains. Philosophiquement, ça c'est un truc important.
Ça veut dire que le taylorisme, ça a commencé avec le steak haché, en fait. Enfin, le
oui.
Steak.
Oui.
Non, plus exactement, le travail à la chaîne a commencé. Parce que le taylorisme, c'est un pas supplémentaire, c'est-à-dire l'organisation scientifique du travail, c'est ça le taylorisme.
Qu'est-ce qu'on faisait dans ces abattoirs? On découpait les bestiaux.
C'était de faire des photos, par exemple.
T'avais des rails avec des bœufs qui passaient par demi-bœufs tranchés à la scie, comme
c'est les étapes, quoi. Tu passes, tu vis, tu après geste, tu découpes, ouais. Voilà, et chacun fait sa partie parce qu'il est spécialiste, il a le geste.
Les temps modernes.
Oui, mais c'est le travail à la chaîne, c'est pas encore le taylorisme. Ouais, c'est le fordisme de départ, si tu veux, mais c'est pas le taylorisme. Oui, c'est un terrorisme d'ailleurs par rapport aux ouvriers. Hein.
Ce que je veux. Hein? C'est le travail à la chaîne qui a permis.
Oui, oui. Voilà.
Le taylorisme.
Voilà, exactement.
Donc c'est la rationalisation du travail de la chaîne qui est en le taylorisme.
C'est plus que la rationalisation, c'est-à-dire que ce que commence à faire le fordisme, ce qu'on appelle maintenant le fordisme, c'est à déqualifier tous les métiers, les mettre de côté, en découpant toutes les opérations de fabrication d'une voiture par petite opération, de façon à ce que n'importe qui n'a aucune qualification puisse faire le geste et de pouvoir remplacer n'importe qui par n'importe qui. Et les conséquences de ça, c'est qu'effectivement, il y a une dépossession. L'ouvrier qui... Vous comprenez bien que celui avant, qui était carrossier ou bourrelier, etc., il faisait son travail, mais d'un siège qui faisait en cuir à l'autre, il y avait toujours quelques petites différences, c'est toujours un petit peu différent, suivant le temps, suivant l'humeur, suivant le cuir qu'il avait à façonner, etc., etc. À partir du moment où tout ça s'est standardisé, d'ailleurs la standardisation c'est aussi ça aussi vient des États-Unis, c'est-à-dire la guerre de sécession, ça c'est une autre histoire, c'est-à-dire la standardisation des armes, c'est la première fois qu'on standardise des fabrications à grande échelle, hein. C'est pour les armes utilisées dans la guerre de sécession. Bon, ça, à partir du moment où une standardisation à la fois des opérations et de la fabrication, le savoir-faire, les capitalistes n'en ont plus besoin. Et la plus grande hypocrisie qui ait jamais existé, c'est que jusque dans les années 70 et 80, et même dans, encore, je crois, peut-être dans l'automobile, dans l'industrie automobile aujourd'hui, par exemple chez Renault, chez Peugeot, etc., tous les ouvriers qui travaillaient à la chaîne, ils appelaient ça des ouvriers spécialisés. Mais spécialisés de quoi? De rien du tout. Moi, j'ai vu, j'ai travaillé chez PSA Aulnay là-bas. Ben, les gens qui étaient à la chaîne, ils étaient spécialisés de rien du tout, mais on les appelait ouvriers spécialisés. OS, ouvriers spécialisés. Ben, en fait, ils avaient perdu toute spécialisation. Et c'est plus que ça. C'est qu'en perdant toute spécialisation, ils perdent la maîtrise de leur temps, ils perdent la maîtrise de leur être. Ils perdent la maîtrise de, comment dire, du travail bien fait, c'est-à-dire de l'intérêt même du travail. Exactement, de l'intérêt du travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, ce que je discutais il y a 20 ans avec des collègues d'Aéroports de Paris qui étaient dans la maintenance, par exemple, ils me disaient, mais il y a 20 ans déjà, mais aujourd'hui, quand il y a un truc qui ne va pas, on ne nous demande pas de faire un travail bien fait. On nous demande que ce soit réparé le plus vite possible. Et en plus, ils avaient un truc de maintenance, là. C'est-à-dire qu'ils avaient un appel. Tel truc a sauté au niveau électrique et le truc, il fallait qu'il soit réparé dans les 10 minutes. Et les responsables de ça, ils s'en fichaient comme de l'an 40 de comment c'était réparé. Le truc qui a... Parce que quand il a fini sa réparation, il fallait qu'il note sur son machin qui le suivait, là, qui le traçait, qu'il avait fini la réparation et que ça fonctionnait. Donc il renvoyait le truc au PC. Et c'était ça qui intéressait les responsables. Et pas du tout comment le travail a été fait. Donc c'est de cette époque-là que l'intérêt du travail... Mais philosophiquement, il y a autre chose derrière ça. Après, ça s'est encore à augmenter avec le taylorisme. Le taylorisme, c'est le fordisme, c'est le travail à la chaîne avec le fait de découper une voiture en X opérations qui se suivent. Mais le taylorisme, c'est chronométrer chaque geste, identifier chaque geste et voir si on ne peut pas changer quelque chose pour qu'il y ait le moins de gestes possible, que ce soit fait le plus vite possible et que ce soit totalement répétitif. Et c'est pour ça que ça s'appelait l'organisation scientifique du travail.
La rentabilité.
Et ceci dit, c'est un très juste mot, parce que si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, de ce que signifie le mode de connaissance scientifique, c'est-à-dire de rendre toute chose abstraite, l'organisation scientifique du travail, c'est de vider de sa substance ce qu'on appelait auparavant le travail. Après, il y a d'autres réflexions philosophiques qu'on peut faire sur le travail en tant que catégorie philosophique. Est-ce que la catégorie philosophique de travail a toujours existé? C'est une autre paire de manches. Donc, j'en suis resté là. Quelque chose que je ne voudrais pas oublier, pourquoi j'en étais arrivé là, parce que je vois Jean-Pierre. Vas-y, Jean-Pierre, qui veut dire quelque chose.
Non, c'était juste une analogie, peut-être un peu surprenante par rapport à ce que tu dis du fordisme. Même dans le champ, par exemple, d'un chercheur scientifique, le CNRS demande, par exemple, qu'il y ait un ou deux articles publiés chaque année. Quitte à ce que tu publies quelque chose qui est un peu approximatif, et puis tu le complètes l'an prochain, ça va faire un deuxième article, tu fais rectificatif parce que tu t'es trompé quelque part, ça fait un troisième article, etc. Même dans ce champ-là, qui est théoriquement de la science pure, il y a une certaine production quantitative à faire.
Alors, quantitative, est-ce que vous permettez... Et c'est pareil dans le médical et d'autres domaines, hein, on va être d'accord.
Oui.
Et le fait de publier donne de la valeur à celui qui a publié la chose telle qu'elle est, à rectifier peut-être demain. Oui. On la pompe parce que ça fait bien. Enfin, on voit des professeurs, des...
Qui ont 300 articles.
Le problème, et il y en a qui le disent, hein, qui sont passés par là. Je n'ai pas en mémoire ce monsieur que j'ai entendu dire, qui publiait, qui a arrêté de publier parce qu'il ne voyait plus l'intérêt. Publier pour publier.
Donc ça, c'est le système d'évaluation qui sévit dans toutes les branches.
Mais maintenant, tout fonctionne à l'image, donc ça va avec ça.
Mais au comptage, c'est au comptage. Il vaudrait mieux dire au comptage, c'est-à-dire on compte. Comme disait Jacques Brel, les artistes sont toujours en avance sur les intellectuels.
Il y en a.
Monsieur, dans ces familles-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur, on compte.
C'est toujours beau à écouter.
C'est génial. Ça, c'est les artistes.
Ces gens-là.
C'est toujours un temps d'avance, en général. Alors, donc, il y a un truc fondamental, c'est cette histoire de triple alliance qui se met en place. Encore une fois, il ne faut pas avoir une vision, manipulatrice. triste de l'histoire. Hein. C'est pas un complot, quoi, hein, entre les capitalistes, les scientifiques et les politiques. Pas du tout, hein. Ça se fait pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce qu'on peut noter, et ça c'est un truc vachement important, c'est que, se met en place aussi à ce moment-là, grâce à cette triple alliance, ce que maintenant en sociologie, depuis longtemps d'ailleurs, on l'appelle les ingénieries sociales. C'est-à-dire un mode de gouvernement des populations, en fait. C'est-à-dire, l'hygiénisme, au début du 19e siècle, vers 1800-1810, et puis à la fin du siècle, ça se termine par l'eugénisme, mais entre les deux, il y aura le pasteurisme, etc. Pourquoi je parle de ça ? Ce sont des ingénieries sociales. Et ça ne pourrait pas exister sans les trois termes dont j'ai parlé, c'est-à-dire le mode de connaissance scientifique, l'industrie et les États. Je prends un exemple, mais que je n'ai pas amené les trucs là-dedans. Par exemple, au début du 19e siècle, vers 1800 et 1810, il y a les premières usines. Qui à ce moment-là sont dans la périphérie de Paris, c'est-à-dire, par exemple, il y a une usine d'ammoniac aux Ternes. Vous voyez où c'est les Ternes, là, la station de métro Ternes, il y a la Fnac des Ternes, là, des Ternes. C'est dans le 17e.
Au bout de l'avenue du Zagram, oui,
dans le 17e. C'est dans le 17e. Donc à ce moment-là, c'est un peu à peine en dehors de Paris. Et il y a d'autres usines très très polluantes et très dangereuses, d'ammoniac, de soude, etc., qui se mettent en place. Et en fait, très vite, enfin, avant le début du 19e siècle, quand il y avait des problèmes de pollution, notamment avec les tanneries, c'est quelque chose qui pollue les rivières et qui sent très mauvais, et en fait, c'est la police locale qui régulait ça, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire par exemple, les riverains allaient voir la police et dire bon, ça sent mauvais, ou il y a des détritus, ou je sais pas quoi. Et donc la police, après, allait voir l'entrepreneur, là, et puis il disait qu'est-ce que vous faites si vous n'arrivez pas à stopper votre pollution, vous allez vous mettre ailleurs. Et venir. À partir du début du XXe siècle, c'est autre chose qui se passe, c'est-à-dire tous les. D'abord, ces grands entrepreneurs sont des gens qui commencent à être de grands capitalistes, qui ont des grandes fabriques, hein. Le nom m'échappe là à l'instant, les plus connus. Mais en fait, ceux-là, ils commencent aussi à être ils rentrent dans l'Académie des sciences et ils rentrent dans les instances de régulation de la mairie de Paris et ils deviennent des politiques aussi. Et ce qui se met en place, en fait, alors qu'avant, c'était la police locale qui réglait les différends entre les possesseurs d'usines et les habitants, en fait, c'est complètement changé. Ces capitalistes-là sont en même temps des scientifiques, eux sont en même temps des scientifiques, et sont en même temps des responsables politiques, soit au niveau de la mairie de Paris, soit au niveau du gouvernement. Il y a Jean-Baptiste Say, et puis les autres noms m'échappent à l'instant. Et à ce moment-là, on dit, quand les riverains commencent à se plaindre de la pollution, on leur dit, attendez, on va étudier la question, et ça passe plus du tout par la police, mais ça passe par d'autres instances qui sont des instances scientifiques et techniques, et qui disent, bon, on va faire des mesures, etc. Et à ce moment-là, il y a les premiers codes de régulation de la population, de la pollution, pardon, c'est en 1802-1810, donc là j'ai un doute dans la mémoire, là, mais c'est 1802-1810, c'est un truc très très connu, c'est un code qui est adopté par la mairie de Paris, mais qui en fait a été dicté par ces grands entrepreneurs qui sont en même temps les scientifiques et qui sont en même temps au gouvernement. C'est-à-dire que eux, voilà, c'est ça, ils sont juges et partis, mais alors jusque-là, quoi, c'est conflit d'intérêts à fond la caisse. Mais ils ont l'argumentation qui fait que les gens sur place ne sont pas, ils n'ont pas les mêmes armes intellectuelles, ils ne peuvent pas répondre à cette argumentation. Et c'est une régulation par la norme scientifique, on appelle ça aujourd'hui. Bon, cette norme scientifique, ils sont pas capables. C'est un peu tout ce qu'on voit, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, etc. Au départ, On dit aux gens, aux habitants de Nantes, oh ben cet aéroport il est insuffisant, il faut développer la région. Donc si on développe la région, il faut un aéroport, donc l'aéroport doit être moderne, celui-là il est encombré, si on veut vraiment, il faut construire un autre aéroport. Mais en fait, pour démonter cette argumentation de l'État et puis des édiles locaux, il faut vraiment s'y connaître en aéroportuaire pour pouvoir montrer que l'aéroport existant, par exemple, avec seulement quelques aménagements, ça fait absolument l'affaire, et il n'y a pas besoin de construire un deuxième aéroport qui en plus coûte de l'argent, mais derrière, en fait, il y a le BTP qui est là pour passer les marchés, et le BTP, justement, c'est Vinci, et Vinci, c'est qui? C'est celui qui investit de l'argent dans tous les aéroports privatisés aujourd'hui en France. Ça, moi, je le sais, parce que je le sais depuis belle durée, quoi, j'ai pris dans le truc. Et donc, se met en place donc cette régulation et qui régule en fait ce qu'on appelle une ingénierie sociale, c'est-à-dire une façon de gouverner les populations, même quand il y a des pollutions. Et en fait, alors je vais dire juste un mot parce que là, ça serait vraiment toute une science. Il se produit quelque chose à la fin du 19e siècle qui est capital, mais qui en général est passé par perte de profit dans l'historiographie française, dans l'histoire française, parce que ça s'est très peu développé en France, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme. Alors, ça c'est un...
Vous lisez Bilal, il a bien écrit là-dessus, c'est de la BD, et c'est succulent. Entre autres, oui. Il y en a qui font partie de ces trucs. Tu vois, okay. J'ai pas en tête... Tu gères ta population et tu la formes comme tu veux qu'elle soit, donc par des sélections génomiques, de génome, je ne sais pas quoi, on est en pleine manipulation. Enfin, bref, voilà, c'est ce qui se passe actuellement, hein. c'est en cours là tout de suite aussi, hein. La science a beaucoup avancé. Après le CRISPR-Cas9,
le mode de connaissance scientifique.
On propose de faire une.
Non, c'est pas scientifique, c'est que.
Quand je dis le mode de connaissance scientifique a beaucoup avancé.
Enfin, ouais, mais c'est grave, quoi. Je veux dire, après, il y a les problèmes éthiques qui se posent. Quoi. Mais en BD, vous voyez, ça existe en plein, sous plein de formes. Mais c'est pas rébarbatif, on se régale à le lire. Personnellement, excusez-moi, mais c'est ça, personnel et à vous personnel.
C'est comme il y a une BD là, sur Tchernobyl, les 120 premières pages là sont absolument très très bonnes. Quoi.
Ça y est, j'ai lu.
Une façon d'aborder l'histoire qui est un peu plus digeste.
Yes, ouais. Mais je voudrais ajouter une chose, ouais. C'est que on fait une pause. Sur la question de l'eugénisme. Si un jour vous avez un peu de temps et l'occasion, et si ça vous intéresse, le bouquin qui, moi, dans ces 15 dernières années, que j'ai lu en tout cas, qui est le plus important, c'est un bouquin d'André Pichot, P-I-C-H-O-T, et qui s'appelle Une société pure, point, de Darwin à Hitler. André Pichot. C'est un bouquin qui est très touffu parce que c'est un historien des sciences, mais il n'est pas compliqué. Il fait 300 pages ou 350 pages, je répète, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire, c'est bon.
Ça ouvre l'esprit, quoi.
C'est plus que ça. C'est plus que ça.
Ça vaut ce que ça vaut en termes d'écriture, mais pour le.
Mais en termes d'écriture, c'est bien écrit. Mais il y a beaucoup de choses, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est pas complexe, mais il y a beaucoup de choses. Mais c'est un bouquin, à mon sens, capital. Bon, c'est capital pour la suite que je vais expliquer, parce que je voudrais en venir après à la psychanalyse. C'est aussi là une vision critique de la psychanalyse dans ce séminaire. Et tout ça pour déboucher sur le fait que. À mon sens, on est dans une nouvelle ère. En 1945, on est entré dans une nouvelle ère du capitalisme, d'une part, et d'autre part aussi, c'est pour nous, la psychanalyse nous aide aussi nous-mêmes à penser notre propre position dans la société, en fait. Ce que je veux dire, par exemple, j'arrêterai là-dessus avant la pause, c'est que on ne peut pas comprendre que la majorité de la population allemande, enfin, que, entre, je vais dire autrement, entre 1932 et 1945, ou 1933 et 1945, pendant 12 ans, il y a eu le nazisme en Allemagne. C'est pas n'importe quoi. Certes, il y avait des SS, certes, il y avait de la violence, etc. Mais moi, ce que je soutiens, c'est qu'une société ne tient pas seulement par la violence. Elle tient aussi par une forme d'adhésion des personnes à cette chose. Je ne veux pas dire que c'est une adhésion volontaire. Hein. Je ne veux pas dire que les Allemands, ils adhéraient à Hitler tous. Certains adhéraient au nazisme. Mais ce que je veux dire, c'est plus large que ça. C'est qu'une société, comme la société nazie par exemple, elle ne peut pas complètement s'expliquer par la violence et par la contention, etc., par l'endoctrinement.
Il y a quelque... L'amour du mal, on ne se dit pas... Ils ne se disaient pas que ce qu'ils faisaient, c'était mal.
Voilà.
Dans un sens, pour eux, c'était bien, justement.
Voilà. C'était... Ouais. Mais comment... Mais ce qui m'intéresse...
Et comment ?
Voilà. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de démonter comment des gens en arrivent à être convaincus, ou d'une manière, ou plus ou moins confusément, ou à se taire, par exemple, par rapport à un ordre comme ça, quoi. Ou par exemple en France, on pourrait dire aussi pourquoi.
La guerre d'Algérie, on en parle.
Voilà, pendant la guerre d'Algérie, ou même pendant entre 39 et 45, pendant l'occupation. Pourquoi il y a des gens qui ont résisté, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas résisté.
On le vit de façon permanente à des degrés divers.
Aujourd'hui.
Quand on nous fait voter en décembre dernier, alors qu'on est en état d'urgence, c'est assez fabuleux. Ce serait dans un pays d'Amérique centrale, on dirait, bon, ce n'est plus une bananière. Nous, on nous a fait voter en décembre dernier, que je sache, en état d'urgence. Tout devait être contrôlé par la police. Moi, c'est ce que prétendait le gouvernement. Et on nous fait voter. Vu de l'extérieur, c'est incroyable. Les élections se seraient mal passées. Il y aurait eu des violences, il y aurait eu, je ne sais pas quoi. On était bon pour à peu près n'importe quoi. Le chantage à la dictature est permanent. Même s'ils n'en ont pas les moyens. Mais on nous met ça dans le crâne. Il est normal que maintenant on ait un état d'urgence permanent. C'est comme ça. Ça va être comme ça en France jusqu'à
fin
septembre,
juillet,
octobre, fin juillet.
Voilà. Les gens s'y habituent en fait.
Oui, c'est ça, oui.
Maintenant, il n'y a plus aucun stress d'ouvrir son sac, de montrer son intérieur.
Exactement.
C'est vraiment plus un problème. Ouais. Ça, c'est devenu vraiment une habitude. Est-ce qu'on te fait vivre au travail, on te fait vivre dans la vie.
Oui,
c'est ça. Oui, exactement. A une emprise toujours plus grande sur le reste.
Non, mais c'est idéologiquement, ce que tu dois faire à ton boulot, tu dois rendre des comptes, tu as un patron, et dans la rue, pareil.
Il faut que dans la rue, un plus un, on appelle ça un plus un aussi, dans les boîtes.
Oui, mais c'est
pas forcément un patron.
C'est totalitaire. Bon,
Et parfois, on se tutoie même avec le N plus un, et on s'appelle par son prénom.
Voilà, pour mieux... Voilà.
Bon, on fait une pause, 10 minutes, et je termine après.
On est déjà en train de
J'en ai plus pour très longtemps.